Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, avec toujours accompagné de l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud.
Salut Raf, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Raffut, vous savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raf nous servira à son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Grégory Lambollet, ancien deuxième ou troisième ligne du Stade Toulousain. Mais aussi, je le rappelle, pour ceux qui auraient oublié cet épisode, aussi passé par le Stade Rochelet, club où Grégory Lambollet a terminé sa carrière. Bref, vous nous voyez venir, évidemment. Nous allons parler de cette magnifique finale de Champions Cup qui arrive samedi à Dublin entre Leinster et les hommes de Ronan O'Gara. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Donc surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Si vous êtes prêts, évidemment, on va y aller. Et je sais que vous l'êtes. Poulain Raffut, saison 6, épisode 37. C'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain cette semaine. Je crois que tu avais envie de parler d'un anniversaire, qui n'a rien d'anodin pour toi, Raph, puisqu'il s'agit du titre de champion de France 2003 du Stade français. 20 ans déjà, oui, 20 ans. Vous étiez nombreux dimanche soir, Raph, pour ces retrouvailles et ce moment de partage.
Oui, Arnaud, comme tu le dis, 20 ans plus tard, moins de cheveux, moins de muscles, quelques rides en plus, des parcours de vie parfois chaotiques, souvent passionnants, des enfants qui sont nés, des périodes creuses, la quarantaine pour certains, la cinquantaine pour d'autres, en un quart de seconde, en une accolade, en un fou rire, les souvenirs qui reviennent, les anecdotes qui pleuvent et la nostalgie de la solitude qui fait place à l'euphorie de se retrouver, de refaire partie de l'équipe l'espace d'une soirée. Alors c'est marrant que très rapidement, au milieu de nos retrouvailles, tu te rends compte que le mec qui parlait fort dans les vestiaires parle toujours aussi fort. Celui qui riait comme un con à chaque blague rigole toujours de la même manière. Celui qui te mettait des pièces, qui savait comment te faire dégoupiller, a toujours les mêmes pièces dans la poche. Celui qui se prend pour Pascal le grand frère est toujours aussi relou avec ses conseils qu'il n'a pas réussi à s'appliquer 20 ans plus tard. Et bien sûr, il y a toujours celui qui s'endormait au beau milieu de la soirée. Eh bien oui, 20 ans plus tard, tu le retrouves en PLS sur une banquette où il s'assit les mains sur son ventre rebondi, sur sa chaise. Bref, ses retrouvailles, c'est toujours un moment, voilà, une espèce de montée en puissance, de conneries, de défis à la con qui réapparaissent. Et c'est reparti pour une dernière danse entre gosses dans des corps de bonhommes. Alors, on croise aussi nos supporters qui, eux aussi, ont pris un coup de vieux. Eux aussi retrouvent, voilà, en nous voyant ce regard de gosses qu'ils avaient aux abords de Jean Bouin, quelques souvenirs par là partagés. Avec cette dame d'ailleurs, notamment de 80 ans que j'ai croisée, qui me dit qu'elle était assise à chaque match à côté de mes parents. Un autre qui se souvient avec nostalgie des 30 pizzas partagées sur un trottoir de la Brasserie des Princes avec les familles des joueurs, amateurs ou pros. Je pense que quand une saison se passe super bien et a été hors norme et hors du commun, bah, ça soude, ça scelle à la vie, à la mort. Et quand on se retrouve 5, 10, 15, 20 ans plus tard, tout le monde reprend sa place. Les introvertis se réunissent discrètement au coin d'un rad et s'expriment à grands coups de silence et de grandes rasades. Les autres, ceux collés au fond de la banquette à cinq places, racontent toujours autant de conneries. Quelques nuquettes plus tard, quelques bons verres de vin, de pintes et de souvenirs partagés, avec modération bien sûr, ou pas. On repart dans nos quotidiens avec à la fois un petit pincement au cœur, mais aussi avec la sensation d'avoir vécu un truc extraordinaire. On retrouve femmes et enfants un peu plus légers, et on est content de les embrasser, on rigole, car on se rend compte, grâce aux amis, grâce aux frères d'armes, que l'enfant en nous est toujours bien vivant. Alors, comme vous voyez, on peut le dire, merci à Thomas Lombard, justement, qui nous a accueillis, à Jean Bouin, merci à Steph Glas, qui m'a mis les pièces tout au long de la soirée, comme à l'époque, et merci au Mila pour nos fous rires, et bien sûr, merci à Max de nous avoir fait vivre, il y a 20 ans, une aventure hors du commun. Et rendez-vous l'année prochaine pour le titre de 2004. Ah oui, aussi, à l'heure où on enregistre ce podcast, Arnaud, j'ai deux pensées qui me viennent. La première, pour tous les joueurs de l'encadrement qui nous ont menés à ce titre Réchelle il y a 24 ans, jour pour jour, c'était le 16 mai 1999. Des mecs qui sont devenus des frères que j'embrasse aujourd'hui. Et bien sûr, Lolo et Titine du Pouce au Crime. Et puis, pour conclure, je garde dans ma tête aussi une pensée toute particulière pour ce siège qui restera à jamais vide malgré les souvenirs magnifiques. La bise, où que tu sois, Domi, et voilà, tu nous manques.
Allez, deuxième partie dans Poulain Raffut. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Grégory Lambollet, ancien deuxième ou troisième ligne du Stade Toulousain. Mais aussi, je le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, du Stade Rochelet, club où il a passé une saison. Il avait signé pour 2 ans. Il a fini finalement sa carrière au Stade Rochelet après une année. Je rappelle également quand même, pour les amoureux du rugby parisien, qu'il est passé par les belles écoles de rugby du PUC et de Massy. Alors, on ne va pas vous faire l'offense de vous rappeler son palmarès. La vérité, c'est qu'on n'a pas trop le temps et que ce serait un peu long. Mais je crois, Raph, surtout, que tu voulais recevoir Grégory Lambolet pour une question importante, une question cruciale, une question presque existentielle, Raph. C'est bien ça?
Ouais, salut Greg. Écoute, ouais, content de t'avoir parce que c'est vrai qu'on se connaît peu et pourtant on aurait pu jouer ensemble. Moi, je suis arrivé à Paris à peu près au moment où, même si on a 2 ans d'écart, on aurait pu jouer ensemble justement avec l'équipe d'Île-de-France et tout ça. Donc on se connaît pas bien, mais on pouvait pas se blairer aussi. Stade français, Stade toulousain, c'est dans le portrait que je vais te monter, on va en parler. Comme nous, on vient de fêter justement les titres des 20 ans en 2003. Je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie parce qu'on l'a gagné contre vous, mais 2 ans plus tard, vous nous filez une pilule justement à Édimbourg. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les conflits générationnels. Moi, ma question, c'est de lui dire, comment ça se fait que toi, né à Paris, comme l'a dit Arnaud, joué au PUC à Massy, tu n'étais pas avec nous dimanche soir à Jean-Bouin pour fêter le titre? Je m'explique. En clair, explique-moi comment toi et pourquoi tu es parti à Toulouse et comment tu es passé dans les mailles des filets de la sélection du Stade français à l'époque.
Mais je suis parti à Toulouse parce qu'on avait fait une finale cadet avec Massy contre le Stade Toulousain en match d'ouverture de la grande finale. À l'époque, ça se faisait. Et là, c'était au Stade de France, c'était en 99. Et donc, c'était Massy Stade Toulousain. Et puis après, à l'issue de ce match, les dirigeants sont venus me voir et m'ont dit qu'ils étaient très intéressés pour que je rejoigne le club l'année suivante. Moi, forcément, quand le Stade Toulousain t'appelle, ça fait
difficile à refuser.
C'est difficile de refuser, voilà. Et je ne suis pas allé tout de suite parce que c'était un peu tôt. Je préférais avoir mon bac et tout ça avant d'y aller. Donc, j'ai mis un peu de temps. Et puis, l'année d'après, ils m'ont rappelé. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. J'avais d'autres contacts avec d'autres clubs. Mais c'est voilà, c'est difficile de refuser à l'époque et encore maintenant le Stade Toulousain, c'est ce qui se faisait de mieux, donc, c'était compliqué de faire autrement.
Bon messieurs, avant de poursuivre vos échanges, je vous propose Raph quand même que tu nous dresses le portrait de Greg Lambolet façon poulain rafut. Greg, je te préviens, c'est quand même un peu différent et c'est maintenant.
Ça va déjà, donc comme je le disais, il n'y a pas plus parisien, il n'y a pas plus toulousain, pardon, putain, le lapsus quand même, il n'y a pas plus toulousain que toi. Né à Paris, tu as commencé à Villiers-sur-Marne, puis au PUC, ensuite à Massy, et tu as vite trippé sur Toulouse en 2000 à 18 ans, comme tu viens de nous l'expliquer. Alors, Arnaud, tu n'as pas eu le temps de le faire, on va quand même prendre le temps, quand même, parce qu'il y a, il y a quand même un titre de champion de France Réchelle, un titre de champion de France Espoir, 3 boucliers, 3 Coupes d'Europe, 14 sélections, et 400 matchs plus tard, tu termines à La Rochelle. Ça, c'est pour les chiffres, mais Greg, comme je te le disais, voilà, je pense qu'on pouvait pas se blairer. On se détestait pendant cette période dans les années 2000. Entre Toulouse et Paris, il y a eu quelques mornifs. Il y avait des têtes qu'on pouvait pas blairer, chacun de notre côté. C'est d'ailleurs un de tes meilleurs potes que j'ai sondé, Philippe Spanguero, que je balance d'ailleurs, c'est cadeau que j'ai sondé, qui dit de toi que tu n'avais pas la meilleure image de l'extérieur avec ce côté nonchalant, mais qu'en fait, tu es quand même un mec de groupe qui fait du bien à l'équipe et qui a cette capacité à pouvoir s'effacer pour le bien justement du collectif. Et j'en veux pour preuve cette anecdote aussi qu'il me raconte. Ce moment où tu joues presque toute l'année, tu fais une énorme saison et tu n'es pas aligné pour jouer la finale et tu dis à tes potes et au groupe que c'est bien pour l'équipe et que c'est tout à fait cohérent que ça soit Yannick Nianga qui soit sur la feuille de match et pas toi. Et moi, je trouve ça hyper humble de le reconnaître et ça dénote quand même d'une certaine humilité et c'est véridique. Alors, comme l'a dit Arnaud, on vient nous de fêter le titre 2003 avec le Stade français et ça fait du bien. J'imagine aussi que vous devez vous retrouver pour fêter les vôtres. Toi, tu en as quand même pas mal, tu vois, à fêter. Tu en as 8 au total en comptant les titres Réchelle, Espoir. Ma question, c'est est-ce que tu penses que vous êtes encore aussi débile? Parce que j'ai entendu parler d'un bateau qui prend feu après un apéro tempête où Vincent Clerc, en fait, essaye d'éteindre l'incendie d'un navire familial avec un gobelet en plastique. Tu vas nous dire, voilà, tu vas nous raconter un peu peut-être cette anecdote ou pas. J'ai peut-être en fait tout à fait résumé ce qui s'était passé. En plus, vous étiez à Boile, enfin, vous rentriez dans le port de Toulon. On arrête là ce qu'on dit. Tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby. Non, plus sérieusement, si on vient vers toi aujourd'hui, c'est peut-être que les gens l'ont oublié. L'Arnaud l'a répété, mais tu as fini ta carrière à La Rochelle. Tu as joué une saison, mais c'est pas si vieux parce que c'était la saison 2017-2018. On le rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le Stade Rochelais dispute la finale de la Champions Cup samedi contre le Leinster. Moi, j'aimerais avoir ton regard justement que tu portes sur ce club et cette évolution. Tu l'as dit, Stade Toulousain, tu étais dans une institution. Le Stade Rochelais, voilà, a franchi les étapes depuis 2013 ou remonté en top 14. Tu es arrivé en 2017-2018. C'est une autre économie, c'est un autre club qui aujourd'hui a l'un des plus beaux publics de France, avec Toulouse, calmons-nous, peut-être pas avec Paris, parce que voilà, mais voilà. Et savoir comment tu as vu évoluer ce club, qui est le club de La Rochelle, qui est en finale ce week-end.
Ben, c'est vrai que, comme tu dis, bon, j'y ai pas passé beaucoup de temps, mais j'ai pu quand même me faire mon idée sur ce club en une année. En fait, c'est quand même un club qui ressemble fortement au Stade Toulousain en termes, je parle en termes de public, en termes d'engouement, même en termes de modèle économique, quand même, ça ressemble plutôt pas mal. T'as quand même pas un mécène qui est à la tête de ce club. C'est un club qui est tourné autour du partenariat qui apporterait vraiment beaucoup d'importance à ça. Et puis après, même en termes d'état d'esprit, de formation et de jeu, j'ai retrouver beaucoup de ressemblances avec le Stade Toulousain.
Dis-nous, Greg, est-ce que tu as senti sur cette année, on rappelle qu'à cette époque-là, le manager était Patrice Collazo, est-ce que tu as senti que ce club, dans sa structuration, avait cette capacité, quelques temps plus tard, à devenir champion d'Europe?
Alors, champion d'Europe, oui, mais aussi rapidement, peut-être pas. Parce que je les aurais plus vus, enfin je les voyais plus être champion de France avant d'être champion d'Europe, parce qu'on sait pertinemment le parcours qu'il faut faire pour être champion d'Europe. Mais je pense qu'ils ont vraiment surpris tout le monde à ce niveau-là, surtout battre le Leinster en finale, ce qui est vraiment pas simple. Donc je savais qu'il pouvait atteindre ce niveau de la compétition, mais pas aussi rapidement.
Une petite question un peu vache, même si ton cœur, on l'imagine, est resté pas parisien mais toulousain, on l'a bien compris, on va arrêter de remettre le couteau dans le bordel aussi. Pourquoi La Rochelle, elle enchaîne aujourd'hui une troisième finale de Champions Cup consécutive, alors que Toulouse s'arrête depuis 2 ans en demi-finale, et Toulouse qui, quand même, depuis quelques années, depuis leur dernier titre d'ailleurs de Coupe d'Europe, voilà, sont pas revenus, et pourtant on a quand même l'impression que Toulouse roule sur le top 14. Est-ce que c'est le fait que beaucoup de joueurs soient aussi en équipe de France, mais il y en a aussi beaucoup à La Rochelle? Comment t'expliques justement ce deux poids deux mesures entre La Rochelle et Toulouse en Coupe d'Europe?
Mais je pense qu'il y a aussi une part de calendrier, et puis aussi le stade a joué, le Stade Toulousain a joué deux fois le Leinster en demi-finale. Donc c'est quand même on va dire l'épouvantail de cette Coupe d'Europe. Et bon, c'est vrai que le fait de jouer à domicile, on le sait pertinemment que ça aide beaucoup dans ces conditions-là, dans cette compétition-là. Alors, je dis pas que si le Stade avait joué le Leinster à Ernest Vallon ou au Stadium, le résultat aurait été différent. Mais en tout cas, sur les 2 dernières années, c'est ce qui s'est passé. Donc, je pense que ça, c'est une part aussi du fait que le Stade a échoué ces 2 dernières années en demi-finale. Et puis voilà. Après, bon, ça se joue à pas grand-chose. Tu le sais, hein, les matchs de rugby, les matchs de phase finale. Bon, là, on l'a vu, la dernière demi-finale, le carton jaune de Thomas Ramos, et puis après, bah, le rouleau compresseur du Leinster qui s'est mis en marche. Il y a eu pas mal de décisions arbitrales qui ont été plutôt en défaveur du Stade Toulousain. En tout cas, je pense à un carton jaune qui n'a pas été sifflé sur Malia
Ouais.
quand il se fait retourner juste avant la mi-temps. Donc voilà, tout ça, c'est des petits ça arrive. Mais bon, il n'y a pas que ça. Après, je pense que ce jour-là, le Leinster était meilleur. Mais voilà, ça reste vraiment une très très grosse équipe de cette Coupe d'Europe.
Greg, sur le plan technique, sur le plan du jeu, on a quand même l'impression que La Rochelle a un petit avantage par rapport au Stade Toulousain. Pour défier le Leinster, c'est cette faculté, enfin cette capacité à prendre la prise du milieu de terrain. C'est vrai qu'un garçon comme Danti est extrêmement précieux. Rares sont les joueurs à avoir les qualités aujourd'hui de Danti, hein, dans le top 14, que ce soit sur le plan défensif, mais aussi sur le plan offensif. Et cette capacité à faire reculer le Leinster au milieu de terrain, on a l'impression que c'est assez, assez décisif quand même dans leur confrontation, non?
Ouais, non, mais t'as raison. Moi, je les trouve vraiment très denses, en fait. Ils font mal, ils ont une grosse défense. C'est vrai qu'en plus, avec un Jonathan Danty, un Perse Muraille, voilà, je pense que au milieu du terrain, ça tape fort. Et puis après, une très très grosse mêlée, quoi. Ils ont vraiment, quand t'as Vigna tenu à droite, et puis que t'as fait 60 minutes contre lui, et puis que tu fais rentrer Georges-Henri Colombe, bon, bah voilà, ça. Et après, t'as Wardy, t'as tout ça. C'est vraiment, t'as une grosse mêlée. Et je pense que sur des matchs comme ça, quand tu domines vraiment à ce niveau-là, ça peut vraiment faire la différence. Et je pense que ça va vraiment être un point. Où le Stade Rochelais va appuyer dessus pour essayer de faire craquer cette défense du Leinster.
Est-ce que finalement le Stade Toulousain est trop joueur pour défier le Leinster?
Non, je pense pas, parce que nous aussi, enfin le Stade Toulousain aussi est plutôt devant quand ça
Oui,
tape
ça tape
fort,
fort.
ça y va aussi. Mais c'est différent. C'est vrai que le c'est pas la même chose. Je pense qu'il faut aussi envoyer du jeu, parce que le Leinster envoie du jeu quand il faut envoyer du jeu. Après, c'est la gestion, c'est les matchs de phase finale, c'est tellement particulier, c'est tellement différent d'un match de phase régulière, que ça se joue vraiment. Bon, on répète tout le temps, mais ça se joue vraiment à des détails, à pas grand-chose, quoi.
Vous avez remarqué quand même que quand vous parlez de technique et phase finale, je n'interviens pas, les gars. Hein? Vous avez remarqué, je suis tout à fait lucide sur ce que j'ai vécu au rugby. Phase finale, j'en ai rarement joué, à la différence de toi, justement, hein, Greg. Et sur le côté technique, je n'y pipe rien. Donc, voilà, j'étais avec mon café, je vous ai écouté. Les gens ne me voient pas, hein, mais j'étais avec mon café à vous écouter. C'est passionnant, messieurs. J'aimerais envie de vous laisser. Mais je vais reprendre la prochaine question. Fred Charrier, l'entraîneur de l'UBB, disait lundi dans les colonnes du Midi Olympique que Toulouse et La Rochelle étaient aujourd'hui les deux meilleurs clubs de France, notamment en grande partie grâce à une grande stabilité au niveau du staff technique, pardon, et de l'effectif. Est-ce que tu partages ce sentiment?
Oui, c'est vrai que pour mettre ton jeu en place, et quand ton staff est stable, c'est beaucoup plus confortable pour les joueurs. Le discours passe beaucoup mieux, forcément. Après ça, au Stade Toulousain, ça a toujours été l'ADN du club, hein, des coachs et des managers qui sont issus du club, et qu'on vire pas au premier échec ou au deuxième échec. Donc, je pense que ça, c'est important, la longévité, faire confiance à son staff, et au Stade Rochelais, bon, c'est un peu ça aussi. Après le départ de Patrice Segarba, pour l'instant ça reste stable avec Ronan O'Gara. Donc je pense que c'est hyper important pour la continuité, et mettre son jeu en place pour l'identité du club, que les supporters, que les joueurs s'y retrouvent.
On sent que
Est-ce
c'est vraiment
que...
le. Vas-y, pardon, Raph. Non, on sent vraiment que ce sont deux clubs qui sont des institutions qui sont bien plus fortes que, je dirais, les joueurs. C'est-à-dire que contrairement à d'autres clubs, les joueurs sont plus au service du club et non l'inverse. On est d'accord. Comme on l'a toujours dit, toi comme moi, dans les institutions, on n'est que de passage, quoi. Mais là, on sent quand même vraiment qu'il y a l'ADN Stade Toulousain, l'ADN La Rochelle, et dans d'autres clubs, c'est plus compliqué aussi à mettre en place.
Je pense aussi, c'est ce qui peut faire la différence. On parlait du staff qui était stable et qui était là, qui restait. Les joueurs, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, tu as beaucoup de joueurs du Stade Toulousain et du Stade Rochelais qui sont là depuis longtemps et qui ont signé des contrats assez longs. Parce qu'ils se sentent bien au club, et puis parce que ils savent aussi que s'ils veulent avoir une carrière, c'est court, hein, tu le sais. Donc si tu veux avoir des titres, vaut mieux être dans les clubs qui sont susceptibles de remporter le maximum de titres. Donc voilà, je pense que c'est après le club prend le dessus sur tout. On a beau s'appeler du Sautoir, Antonio, Dupont, voilà, après comme tu dis, dans 7-8 ans, ces joueurs-là vont être remplacés, mais les clubs seront toujours là. Donc ça, c'est le plus important. Et je pense qu'on a des présidents aussi, que ce soit Merlin ou Lacroix, qui font tout pour garder cette image-là du club, en organisant des événements pour les anciens, ou en faisant participer les anciens, en offrant des... Enfin, je sais que par exemple Didier, quand il est arrivé, il a mis des anciens joueurs ambassadeurs du club, qui peuvent venir au stade quand ils veulent, qui peuvent venir au centre d'entraînement quand ils veulent, venir voir les entraînements, qui ont une partie au stade avec une loge dédiée, un clubhouse dédié. Et voilà, on va à la réception des partenaires, on est considéré. Et ça, en fait, pour les joueurs actuels, c'est hyper important. Parce qu'ils se disent, ouais, moi je joue au Stade Toulousain aujourd'hui, mais quand je vais arrêter dans 4, 5, 6 ans, je ne serai pas oublié, quoi. Et ça, ils veulent du coup, ils le sentent et ils veulent le redonner au club, quoi. Et je pense que Didier, à ce niveau-là, il a tout compris. Et Vincent Merlin à La Rochelle, c'est de même, quoi.
Et Greg, tu parles beaucoup de la transmission justement et de l'importance des anciens. Ta transition, elle s'est passée comment? Alors, certes, tu as joué un peu une année à La Rochelle, mais je l'ai dit, ton cœur est toulousain. Comment s'est passée, toi, ta transition? Et puis, pour moi, ça me paraît logique, en fait, de dire, de revenir au club, notamment au Stade français. Tu te sens reconnu aussi, tu as l'impression d'avoir écrit aussi l'histoire du club, et puis cette transmission avec les jeunes. Et j'ai l'impression que Toulouse a été précurseur à ce niveau-là, mais depuis 85, je suis tombé sur un documentaire qui retrace un petit peu la montée en puissance du Stade toulousain depuis 85, avec notamment la transmission. L'importance des anciens, elle est prédominante.
Ah ben complètement, complètement, je te dis, c'est vraiment, ça fait partie des points très importants pour Didier et puis pour le club, quoi, parce que mais le Stade français, c'est pareil, ça se retrouve un peu aussi, ça, t'as une identité, tu vois les joueurs identifiés du Stade français, enfin, nous, l'époque où on se jouait, c'était voilà des matchs quand on parlait du classico. Maintenant c'est différent, tout a changé, mais je veux dire c'était des matchs intenses et on s'est envoyé comme pas possible sur le terrain mais malgré ça ça reste et c'est ce qui fait l'histoire des clubs et du rugby français. Donc ça c'est important, il faut le garder. Mais après, il y a aussi la transmission. Je sais qu'on est pas mal de joueurs. En tout cas, moi, je m'occupe des U12 au Stade Toulousain parce que j'ai envie de transmettre un peu tout ce que le club m'a donné et m'a appris aux jeunes joueurs du club aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul. Il y a d'autres joueurs qui font ça, qui sont passés par les filets. Pas forcément pro, mais il y a des joueurs qui ont été espoirs au Stade Toulousain et qui sont aujourd'hui éducateurs au stade. Et ça, c'est hyper important, quoi.
Messieurs, j'ai une petite question pour vous deux. En vous écoutant, il y a une réflexion qui me vient. Quand on parle du poids de l'institution, le poids du club, ce qui est très vrai au Stade toulousain depuis très longtemps, qui vient chez certains clubs, on a l'impression que vous avez vécu quand même deux époques différentes. C'est-à-dire que Greg, tu as connu le Stade toulousain de Guinovès qui est resté 20 piges, et Raph, la marque de fabrique un peu du Stade français à l'époque, c'était cette capacité qu'avaient les joueurs à faire virer les entraîneurs. Il y avait quand même deux écoles très différentes, non?
Ouais, enfin, quand t'avais Nick Mallette qui était arrivé, qui était pas le plus grand technicien, mais qui te parlait dans la bouche et qui était là-dessus, tu vois. Bon, on l'a gardé 2 ans, hein.
Oui, mais
Deux
n'empêche que
ans,
vous
deux
l'avez mis
titres.
dehors. Au bout, vous l'avez mis dehors.
2 ans, deux titres. Et puis après, ouais, il a fallu tourner la page. Je sais pas si c'est Fabien Galthié qui est arrivé, qui lui a mis un coup de pied dans la bouche. J'en sais rien. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Je connais pas l'histoire. Mais oui. Mais c'est d'ailleurs les deux présidents qui se sont rencontrés. Souvenez-vous des anecdotes qui sont sorties il y a pas très longtemps entre Max Gozzini et l'ancien patron du
René Buscatel.
et René. Où il se dit, voilà, moi René me l'avait dit lors d'une bouffe, il m'avait dit, mais vous étiez la Star Academy et nous on était la Stade Academy. Tu avais la culture club du Stade Toulousain et le Stade français. Alors on n'allait pas chercher obligatoirement des stars, c'est l'image qu'on avait de l'extérieur. Les mecs sont devenus des stars au Stade français, mais il y a ces deux cultures qui étaient complètement différentes et c'est pour ça que ça détonnait sur le terrain. Je pense que ça vous enrageait justement de nous voir aussi arriver et puis déstabiliser un petit peu l'hégémonie du Stade Toulousain de la fin des années 90 et début des années 2000. Je sais pas comment tu l'as vécu d'ailleurs, Greg.
Bah ouais, parce que à l'époque, c'est vrai qu'avant que vous arriviez, il y avait le Stade Toulousain et puis les autres. Et puis donc forcément, quand le Stade français est arrivé avec Max Guazini, qui a fait énormément pour le rugby, on le dira jamais assez. Donc forcément, tu n'étais plus tout seul sur le devant de la scène. Ça a créé ces matchs, cette rivalité. Mais je pense que c'était une rivalité saine quand même. On se respectait mutuellement. Je trouve que ça a été bien pour le rugby, ça a été le rugby moderne qui arrivait, et il faut des rivalités comme ça. Aujourd'hui, tu en as quand même moins parce que le niveau est beaucoup plus homogène et on essaye de faire perdurer ce fameux classico et tout ça, mais tu sens que c'est quand même pas pour l'instant, en tout cas, enfin, pour moi perso, je suis un peu nostalgique justement de cette période-là où. Voilà, je me souviens d'un Stade Toulousain, un Stade français au stadium où c'était parti dans tous les sens. Enfin, donc voilà, c'était voilà, ça c'est un peu bon, ça a changé avec les règles, la vidéo, donc tu peux moins faire de, on va pas faire les rabat-joie ou les anciens aigris, mais pas
Non,
du
je
tout.
vois l'état, je vois, c'est pas à la fois
Mais
l'agressivité sur le terrain, parce qu'elle est toujours là, mais
ouais.
elle est beaucoup plus canalisée. Mais voilà, ça faisait partie
Ça
du
créait
folklore.
les semaines avant
Alors,
Classico,
j'allais te poser la question.
c'était.
Moi, comment ça se passait de votre côté? Sans rentrer dans le secret des dieux du vestiaire, mais comment ça se passait? Ça mettait des pièces. Nous, Domi, nous mettait des pièces à chacun. T'étais titulaire, je peux te dire
Ben
que là,
oui,
il te mettait.
mais nous, enfin, c'est pas un secret, c'est que Guy faisait la revue de presse tous les jours, il affichait tout ça dans les vestiaires, sur les casiers de chacun. S'il y avait un joueur du Stade français qui parlait sur un autre joueur, alors que il en disait peut-être du bien, mais lui, il découpait que la partie où il parlait du joueur. Enfin bon, c'était voilà, il faisait tout pour nous remonter. Et pour ça, il a été, enfin, il était très fort parce qu'il arrivait à nous faire monter la couscoussière. Et puis après, on arrivait. Et puis même ces matchs au Stade de France, cette mise en scène, tout ça, c'était nouveau, quoi. Donc c'était génial. Nous, on adorait. C'était vraiment excitant. Avec des stades pleins et tout, donc là maintenant c'est différent, mais c'est vrai que les semaines avant Classico, ouais, on s'en souvient et on les préparait pas comme des phases finales, mais des matchs qui comptaient, des matchs importants.
Greg, juste une petite question. Tu parlais de Guinovès. On a eu la chance de le recevoir justement ici. On a passé un super moment. On l'a dit, hein, tu es arrivé. Le Stade toulousain est venu te chercher. Tu as vécu des années extraordinaires. Je le dis, tous ces titres qui t'ont permis de jouer en équipe de France. Plus de 400 matchs en équipe première, avec un peu de La Rochelle, mais quand même l'essentiel au Stade toulousain. Parle-nous un peu de ce personnage qui est un peu paternaliste. Tu vois, c'est Guinovès que d'ailleurs qui a été enterré trop tôt et on en a parlé, hein, mais pour moi c'est une imposture totale qu'il ait eu cette fin. Mais de ton côté, toi personnellement et subjectivement, comment tu as vécu avec ce déraciné de Paris aussi, parce que arrivant dans une ville que tu connaissais pas, comment il a été avec toi?
Ah bon, moi, il a été très très protecteur. Il a été parce qu'il a une image comme ça d'extérieur où il peut être faire sévère, il peut faire, mais au final, voilà, c'est quelqu'un, il serait prêt à mourir pour ses joueurs. Mais vraiment, c'est pas exagéré ce que je peux dire. C'est vraiment, il faisait tout, mais il nous mettait même trop. On était trop dans une bulle. Il nous protégeait énormément des médias, des supporters, des partenaires. Et voilà, il voulait vraiment qu'on soit bien et qu'on ait qu'une fixette et une priorité, c'est le rugby et le terrain. Donc voilà, il faisait tout pour qu'on soit le mieux possible. Et puis moi, c'est vrai qu'il m'a donné ma chance très rapidement, très jeune. Voilà, moi je lui dois tout aussi. Si j'en suis là aujourd'hui et si j'ai réalisé cette carrière, c'est grâce à lui. Il m'a fait confiance. Après, il m'a créé un profil de joueur. Avec cette polyvalence et tout ça, ce qui était un avantage et en même temps un inconvénient, parce que tu l'as dit, j'ai presque 400 matchs, mais j'en faisais aussi pas mal remplaçant, notamment les phases finales. J'arrivais, j'étais le joueur qui faisait le plus de matchs tous les ans, je faisais quasiment le plus de feuilles de match. Et quand arrivaient les phases finales, bah, j'étais remplaçant ou pas dans le groupe. Donc ça foutait les boules, mais il arrivait quand même, malgré ça, à faire passer l'équipe avant tout. Donc les joueurs qui n'étaient pas en groupe, qui étaient remplaçants, mais qui avaient fait toute la saison et qui malheureusement étaient remplaçants sur les phases finales, il leur apportait beaucoup plus d'importance à eux qu'aux titulaires. Et ça, c'est pour lui, c'était hyper important. Et nous, on le ressentait, donc ça passait bien, quoi. Alors que dans un club ou avec un autre staff ou avec un autre entraîneur, quelqu'un, un joueur qui fait toute la saison, on lui dit t'es pas en groupe ou t'es remplaçant, ça peut piquer, ça peut faire mal. Lui, il arrivait, il était très fort par rapport à ça.
Il y avait une intelligence en fait d'adaptation. Moi, j'ai entendu des mecs qui disent bah ouais, on m'a mis au fripo. En fait, on te
Ouais.
fait croire que tu es au repos, mais on te fout au frigo, quoi. Mais ou des mecs
Ouais.
qui te mettent complètement sorti du groupe. J'ai entendu des gonzes, mais qui ont fait des burn-out parce que mauvaise relation avec l'entraîneur qui bah, moi, je t'ai pas choisi, donc je te veux pas. Là, il y a une
Bah oui.
intelligence, c'est-à-dire qu'il te sort du groupe, mais intelligemment pour le bien du collectif, en appuyant
Bah,
sur les leviers.
il te préparait pour toute la saison. En fait, t'étais pas surpris, quoi. Tu le sentais venir, mais enfin, Pour lui, les matchs, quand il y avait Bourgoin, il y avait, je me souviens, des matchs à l'extérieur, des matchs compliqués où c'était, fallait batailler dur. Pour lui, en plein hiver, c'était aussi important qu'un match de phase finale. Et il a su nous formater avec en, il a su nous formater avec ça, quoi. C'est-à-dire OK, il y a les phases finales, c'est très bien, la finale, c'est important, il n'y a pas de souci, mais les 30, les 40 qu'on participait, c'est primordial, c'est hyper important. Et c'est là où il a été très fort. En termes de management, il a été très fort parce que, voilà, te dire que tu faisais la gueule, t'étais dégoûté, hein. Je dis pas que t'étais content et tout ça, mais en tout cas ça passait mieux. Et voilà, c'était sa façon de faire et ça a plutôt bien réussi. Je sais pas si dans le rugby moderne aujourd'hui ça marcherait parce que les joueurs ont besoin de performance, ont besoin de jouer ces matchs-là, les matchs de phase finale, les matchs couperet, décisifs. Mais bon, c'est différent.
Messieurs, je me permets de recentrer un petit peu. Il y a une finale à jouer samedi pour le Stade Rochelet. C'est à Dublin, donc on l'a dit contre le Leinster. C'est un immense défi. Greg, est-ce que tu penses aujourd'hui La Rochelle capable de renouveler son exploit de l'an passé? Je rappelle que, évidemment, l'an dernier, La Rochelle a battu le Leinster, mais c'est dans un autre contexte. C'était à Marseille, en France. Là, le Leinster va jouer à domicile devant quand même une grande, grande, grande partie de son public. Est-ce que le Stade Rochelet est en capacité, Greg, à ton avis, à bouleverser, entre guillemets, la hiérarchie? On a l'impression que, comme le dit Raph régulièrement depuis maintenant 3-4 mois, le Leinster roule sur l'Europe.
Ouais, ils roulent sur l'Europe, mais ils ont perdu la semaine dernière contre le Munster. Donc ça prouve quand même qu'ils sont pas imbattables. Non, je pense sincèrement, franchement, que le Stade Rochelais a les armes pour remporter ce match. Après, je me répète, c'est vrai, mais les finales, c'est tellement particulier. C'est tellement différent des autres matchs. On l'a vu l'année dernière à la finale à Marseille. Le Leinster n'a pas du tout joué comme il avait joué toute la saison. Et les matchs sont beaucoup plus fermés. Ça joue beaucoup moins. Ouais, moi je pense qu'ils sont armés. En tout cas, ils ont l'équipe pour remporter ce genre de match.
Alors, équipe pour remporter ce genre de match, ok. Si La Rochelle gagne la Coupe d'Europe, tu me vois arriver. Est-ce que le top 14 est pour Toulouse? Parce que est-ce qu'ils sont armés? Alors, ma deuxième question qui va
Pour
compléter
faire
la
le
première,
doublé.
est-ce qu'ils sont armés ou est-ce qu'ils ont une profondeur de banc pour gagner la Coupe d'Europe et pouvoir faire le doublé à l'image de Toulouse il y a quelques années ou d'autres clubs rares qui ont réussi à le faire?
Le RCT.
En tout cas, ils ont tout fait pour le faire parce que ils sont qualifiés directement en demi. Ils vont pas avoir le match de barrage, donc ils ont une semaine pour récupérer, ce qui est hyper important. Oui, le doublé, c'est possible aussi quand tu t'es mis dans ce contexte-là avec la possibilité de faire souffler tes joueurs. Je pense que c'est faisable. Ouais.
On a quand même l'impression qu'il y a un gouffre entre ben justement les deux aujourd'hui qualifiés déjà qui ne feront pas les barrages mais qui seront directement dans, oui, qui sont le Stade Toulousain et le Stade Rochelet. Est-ce que c'est aussi ton sentiment qu'il y a ce gouffre entre ces équipes et le reste des autres, enfin les autres équipes qui se battent justement pour les barrages entre le Loup, le Racing, le Stade Français Toulon qui viendra peut-être dans la danse. Il y a quand même, on sent quand même qu'il y a, et on a parlé depuis le début hein, de cette stabilité que représentent ces deux clubs face à d'autres clubs qui sont en lutte et qui ont eu du mal justement à pouvoir se qualifier dans les six. Eux, c'est installé.
Je trouve effectivement que c'est les deux clubs qui sont aujourd'hui au-dessus de notre top 14. Ça, c'est une certitude dans la régularité, dans la performance, dans l'effectif, la profondeur de banc. Pour moi, c'est certain. Après, de là à parler de gouffre, peut-être pas, mais il y a des clubs comme Bordeaux, il y a des clubs. Le Loup, ils ont des facteurs X. Un joueur comme Tuissova au Loup, il peut tellement te traverser le terrain que tu sais jamais ce qu'il peut te faire un match du feu de Dieu. Et voilà. Ouais. Mais ça reste des facteurs X, ça reste des individualités. Moi, en termes de collectif et d'équipe, je trouve que, et de, voilà, de, on va dire, de, de densité, de tout ce qu'on veut, tout ce qui fait que tu peux faire des gros matchs et une grosse performance. Le Stade Rochelet aujourd'hui et le Stade Toulousain sont dessus. Ouais.
Juste pour
Messieurs,
conclure, ah pardon, excusez-moi, j'avais juste une dernière question, mais qui sera très rapide. Mais voilà, tu as eu la chance d'en remporter trois, si je ne m'abuse, toujours plus. Ce serait le meilleur souvenir, ce serait le premier, la dernière, la seconde, par rapport à l'effectif aussi. Tu parlais d'effectif, mais en aventure humaine, la première Coupe d'Europe que tu as remportée, peut-être là, hein, le plus beau
alors, la
souvenir.
première, d'ailleurs, tu parlais que vous avez fêté le titre de 2003 avec le Stade français. Nous, on le fête demain soir chez Trevor Brennan, le titre de 2003 de la Coupe d'Europe contre Perpignan. Donc, c'est demain soir. Donc, je pense que ça va être intelligent, surtout chez Trevor. Donc, ça, je vais pas dire. Enfin, bon, c'est chez Trevor, donc il a deux barres. Donc, je
Non, faut
pense que
peut-être pas trop en dire, pas trop en dire.
Les gens vont vite trouver, mais bon, ils vont faire un des deux. Mais non, ça va être donc ça va être sympa. On parlait justement tout à l'heure des valeurs, de la transmission et tout ça, mais c'est vrai que se regrouper pour ce genre de date d'anniversaire, c'est hyper important. Et ensuite, non, alors 2003, en fait, tout est allé très vite. 2003, je venais d'arriver il y a 2 ans au Stade Toulousain, j'avais signé Espoir, j'étais encore Espoir. Donc en fait, j'alternais les Espoirs et la première. J'avais fait quelques matchs avec la première, mais pas trop. Donc, on va dire, bon, j'étais très très heureux, bien sûr, mais c'est tellement allé vite qu'en fait, je m'en suis même pas rendu compte. Pour moi, c'était presque naturel. On sortait d'un titre de champion d'espoir 2 semaines avant. Donc, bon, c'est champion de France espoir et puis après champion d'Europe. Bon, voilà. Non, moi, c'est vrai que celui 2005 et 2010, 2005, de par on va dire, c'est pas le Stade français, rien à voir avec vous, mais c'est juste que, un peu
Le scénario.
le scénario du match, ouais, les prolongations et tout, bon, ça avait été quand même assez incroyable comme match. Et puis, Guinovès qui avait fini au poste de police aussi et qui avait pas pu fêter. Tout ça, c'est des anecdotes qui restent gravées. En plus, à Murrayfield, c'est un stade que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est plus celui de 2005. Après 2010, bon, j'ai joué la Coupe d'Europe, mais je n'ai pas joué la finale, je ne sais pas en groupe. Mais sinon, ouais, 2005, c'est celui qui me revient.
Messieurs, le temps est venu de conclure, mais puisque tu parles d'anecdotes, Grégory, on va quand même te donner le temps de répondre, peut-être un droit de réponse à la première question de Raph. Raconte-nous, c'est quoi cette histoire de bateau qui prend feu de Vincent Clerc déguisé en pompier avec un gobelet? Il faut quand même que tu nous éclaires un peu sur cette anecdote avant de nous quitter.
Alors, on avait fait un très très bon déjeuner à Porquerolles, sur l'île de Porquerolles. Et donc, moi j'avais beaucoup de mal à ramener le bateau au port. Donc, j'ai demandé à l'époque, il y avait Nico Jean-Jean aussi sur le bateau. Et
Qui
j'ai
est moins
demandé
excessif que
à.
vous en bringue, hein, on peut le dire.
Non, 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 lui, c'est pour ça qu'il pouvait conduire. Donc, je lui ai dit, bah, ramène le bateau. Il a ramené le bateau. On a tous dormi pendant la traversée entre Porquerolles et Hyères. Et on arrive au port d'Hyères. Et en fait, pour remonter l'ancre, t'as un guindeau d'eau électrique. Là, t'appuies sur un bouton et ça remonte l'ancre. Et bon, j'avais laissé le bouton on, up, appuyé. Donc, du coup, ça a forcé pendant toute la traversée. Ça a forcé sur la chaîne et ben, en arrivant on a ouvert la cabine à la place au port et là la cabine du bateau était en feu. Donc moi j'avais encore du mal à récupérer, je me suis assis sur une sur le port, j'étais désabusé parce que en pleurs, je me suis dit, putain, mais comment je vais faire? En plus c'était le bateau familial et tout ça, donc mon père arrivait le lendemain, il prenait 2 semaines de vacances par an, il pouvait pas se servir du bateau, donc j'étais en dépression. Et bien sûr, Vincent, le gendre idéal, l'homme parfait, voilà. Il est arrivé, il a pris des seaux d'eau du port, il a essayé tant bien que mal d'éteindre l'incendie, mais il n'a pas réussi, bien sûr. Donc, on a appelé les pompiers et puis on a fini quand même à l'hôpital parce qu'on a inhalé des fumées toxiques et tout. Enfin, à part moi qui rien fait, en fait, j'étais tellement médusé, tellement dégoûté des répercussions que ça allait avoir dans ma famille que je ne savais plus quoi faire. Bon, voilà, c'est un très bon souvenir. Philippe qui avait couru à la capitainerie, presque à poil pour aller chercher les pompiers et tout. Donc, ouais, c'était des bons souvenirs. C'était vraiment sympa. Mais
Pourquoi?
final,
Ben...
en fait, j'appelle mon final, j'appelle mon grand-père à l'époque et il me dit, mais putain, mais t'aurais dû le laisser couler en pleine mer, au moins on aurait été tranquille et on était assuré. Là, on va être obligé de le réparer et tout. Donc, ouais, non, c'était sympa. C'était un retour très, 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 très
Chaud,
compliqué.
très
Ouais,
très chaud, on va dire. Bon, je crois
exactement.
qu'on a
C'était
bien
là.
fait, on a bien fait quand même de demander un éclairage sur cette anecdote parce qu'il y en a
Ouais.
quelques-uns quand même qui, en écoutant ce podcast, devraient prendre quelques barres de rire.
Ouais.
Grégory, un grand, grand merci pour ta disponibilité. Merci de nous avoir éclairé un petit peu aussi sur cette finale de Coupe d'Europe et cette rivalité aussi qui est en train de naître entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain. On souhaite quand même le meilleur, évidemment, au Stade Rochelais pour
Bien sûr.
samedi dans cette
Ben
finale de championnat.
on veut garder la cinquième étoile surtout, parce que moi bien sûr qu'on sera supporter du Stade Rochelais, parce que sinon le Leinster rejoint le Stade Toulousain, donc en termes de titre, et ça, ouais, c'est pas terrible.
Alors, tous derrière, évidemment, le Stade Rochelais samedi. Merci Grégory pour ta disponibilité. Raph, nous, on va enchaîner évidemment avec la troisième partie de Poulain Raffut.
Merci, merci les gars, ciao.
Allez, troisième partie dans Poulain Raffut. Raph, évidemment, on a beaucoup parlé hein, de cette finale de Champions Cup entre le Leinster et le Stade Rochelais. Je le rappelle, hein, samedi à Dublin, évidemment. Il faut que tu nous donnes aussi ton sentiment sur cette finale à venir, le remake de la finale de l'an dernier. Oui, je ne suis pas certain que l'issue soit aussi fatale pour le Leinster, qui a quand même roulé cette année sur la Coupe d'Europe, qui a roulé aussi sur le tournoi Destination. Première nation mondiale, on sait qu'il y a énormément de joueurs du Leinster qui jouent en équipe nationale. Alors, je pense que le regard de Greg est lucide. Maintenant, voilà, il suffit d'un exploit. L'année dernière, il y avait eu cet essai à la dernière seconde du jeune Retière. Est-ce que ce sera la même physionomie cette année? Je ne suis pas certain. J'ai l'impression que l'équipe du Leinster ne refera pas les mêmes erreurs que l'année dernière, même si c'était vraiment tendu jusqu'à la dernière seconde. Moi, je vois une victoire, ouais, une victoire du Leinster, même si La Rochelle a fait tourner justement pour pouvoir avoir ses cadres titulaires sur le terrain et son équipe type. Ça va être très, très compliqué. Je ne suis pas certain qu'O'Gara ait le même sourire, je dirais, que l'année dernière et que après la demi-finale. Voilà, c'est mon sentiment, même si je reste persuadé que La Rochelle peut faire un coup, ce sera beaucoup plus compliqué que l'année dernière, à mon avis.
Allez Raph, c'est un peu la saison des coups de cœur hein, qui débute. On touche à la fin de saison. Il y a les hommages qui se multiplient. Patrick Arletaz, un manager emblématique de l'USAP, a vécu le week-end dernier son dernier match dans cette fonction dans son stade à Aimé Giral. Il avait annoncé vouloir prendre un peu de recul. Il a reçu un bel hommage des supporters catalans. Et toi aussi, Raph, tu voulais évidemment lui rendre hommage.
Arnaud, tu te souviens-toi du moment qu'on avait passé avec lui, on avait fait une super émission. C'est un mec qui pue l'humain, qui a pas sa langue dans sa poche, qui fait du bien aussi au rugby français quand tu l'entends parler. Là, au coup de sifflet final, ça gagne contre Toulouse, le club est sauvé, il a fait le taf, et enfin, le club est sauvé. Il est 13e, en tout cas, il a encore cette possibilité de jouer un barrage pour pas descendre en Pro D2, mais voilà, faut revenir sur l'homme. Il a dit, je trouvais ça hyper touchant avec les larmes aux yeux de dire qu'il avait appris à marcher en fait dans les travées du stade avec son grand-père. C'est des histoires qu'on aime. C'est de la fidélité à l'heure où des mecs peuvent signer du jour au lendemain et aller jouer ailleurs en un quart de seconde. Voilà, c'est un mec qui est fidèle. C'est de l'ancienne génération et qui, quand tu le vois avec ses larmes à la fin du match, quand tu le vois porté en triomphe par ses joueurs, par ses supporters. Tu te dis que ben, elle est peut-être là la réussite humaine en fait, ça va au-delà des titres glanés, et ça rejoint un petit peu je sais pas si tu avais vu cette vidéo, et je pense que celles et ceux qui nous écoutent ont vu cette vidéo de ce mec aux États-Unis, ce basketteur qui dit, mais un journaliste qui lui pose la question à savoir est-ce que cette année c'est encore un échec, et le mec lui répond, mais en fait non, parce qu'on apprend tout le temps, et par les mots de Patrick, tu sens que bah, ok, il n'y a pas de titre en fin de saison, notamment à Perpignan, c'est toujours un peu compliqué de rester en top 14 pour Perpignan. Mais la saveur d'une saison, je dirais, accomplie et d'être sauvé, de rester en top 14, on va voir dans les prochaines semaines, ben ça vaut tout l'or du monde et ça vaut peut-être tous les boucliers du monde. Donc voilà, Patrick est un homme de valeur, moi que j'apprécie vraiment beaucoup et que j'aime avoir en fait sur le bord du terrain parce qu'il y a des émotions qui s'en dégagent et ça fait du bien et je pense qu'il va manquer à Perpignan. Ouais.
Et pour conclure, un coup de chapeau aussi, un coup de chapeau à Camille Lopez, Raph, l'ouvreur de l'Aviron Bayonnais, qu'on a eu la chance hein, de recevoir au cours de la saison dans Poulain Raffut. C'est lui qui a donné la victoire à son équipe samedi dernier contre l'ASM Clermont-Auvergne, son ancien club. Une victoire grâce à une dernière pénalité en toute fin de rencontre. Il avait le choix de rentrer, il avait fait le choix, pardon, de rentrer au pays en fin de saison dernière, laissant derrière lui une grande partie de sa carrière en Auvergne. Certains avaient un peu ironisé Raph hein, sur une retraite dorée de Camille Lopez. C'était bien mal connaître le bonhomme qui a réalisé une saison exceptionnelle, et je pèse mes mots, une saison exceptionnelle avec un club fraîchement promu de Pro D2. Et Raph, tu voulais lui tirer un grand coup de chapeau à Camille Lopez.
Ben, on voulait, parce que tu vois, à travers tes mots, on sent quand même qu'il y a beaucoup de respect pour le joueur et pour le mec. Je trouve que c'est un peu un mec à l'ancienne, et tu l'as dit, hein, beaucoup ont pensé que le mec allait rentrer à la piole et prendre un peu d'oseille et puis finir comme ça, tu sais, un peu dans son canapé, un peu cotonneux, à prendre un peu de la doche. Pas du tout, il a montré cette année, il a été décisif sur beaucoup, beaucoup de matchs. Hein. Je pense que c'est le 10 de l'année aujourd'hui dans notre cher top 14. Voilà, c'est certes un ancien, mais tu vois sa joie à la fin du match quand il saute dans les bras de ses potes. Voilà, je pense que Bayonne a encore peut-être cette infime chance de pouvoir se qualifier, avoir un peu les résultats du week-end prochain. Mais ce serait tout à fait mérité, voilà, pour un club qu'on annonçait aux portes de la relégation dès le début de l'année, à dire ils vont encore lutter pour le maintien. Ils ont dérangé, ils sont restés invaincus à domicile, et je pense que c'est en grande partie grâce à lui aussi. Je pense à Maxime Achenot, qui lui aussi, parti du Racing, n'est pas venu pour s'enterrer. Ils ont fait du bien psychologiquement, à mon avis, au groupe. Et voilà, Camille, tu sens que le mec vit une seconde jeunesse là-bas, face à l'ASM, oui, son club, pas de toujours, mais le club dans lequel il a le plus évolué, avec qui il a gagné des titres. Donc ça fait du bien aussi de voir ces mecs, tu vois, qui gardent cet état d'esprit et qui, voilà, qui est pas venu en fait pour prendre l'oseille, qui est venu justement pour vivre encore de belles sensations. Et il nous en a fait vivre de très très belles cette année, encore ce week-end. Donc chapeau à lui, et chapeau aussi à Grégory Pata, qui a fait un gros gros boulot aussi, parce que passer derrière Yannick Bruce, c'était assez compliqué, mais il a réussi, en tout cas le pari est réussi, de pouvoir installer le club enfin en top 14 de manière durable. Ben, c'est grâce à des figures comme Camille Lopez, et puis on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver l'année prochaine, le casting est intéressant, donc en tout cas on leur souhaite une belle fin de saison.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Poulain Rafut, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. On vous donne évidemment également rendez-vous un samedi. Hein, on le rappelle, cette finale de Coupe d'Europe entre le Leinster et le Stade Rochelet, tous en jaune et noir pour soutenir le club français, évidemment, dans cette dernière ligne droite. Merci, Raph. On se retrouve, donc on l'a dit, la semaine prochaine, toujours, évidemment, avec cette bonne humeur qui te caractérise, Monsieur Poulain.
Il nous caractérise. Merci, Arnaud, pour cette émission, et merci aussi à Adrien d'avoir réalisé ce podcast. Et à la semaine prochaine. Bon week-end rugby. Salut.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.